Alors maintenant nous avons fini. Qu'est-ce que vous avez à demander sur le sujet pour clore? Quelles sont vos réflexions? Vos commentaires? Quel effet ça vous a fait? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous mettait sur le chemin? Que ça vous donnait le clé de la découverte, la clé de la découverte? À rien. Vous n'avez rien senti, vous n'avez rien éprouvé, vous n'avez... Avez-vous écouté? Alors, ma dernière question. Si vous n'y répondez pas, nous n'en parlerons plus. Est-ce que ça vous a donné envie de faire le yoga ou pas? Le rochement, peut-être, mais ça c'est pour moi quelque chose. Oui ou non? Un peu, beaucoup, pas du tout. Voilà. Alors, tu as la parole. Est-ce que ça t'a donné envie de faire le yoga ou pas?
Il y avait des chapitres quand je lisais et que je ne comprenais rien. Alors il y avait une grande aspiration. Mais il y avait des temps quand...
Pourquoi? Parce que tu ne suivais pas ou parce qu'il n'y avait pas de réponse?
Je crois quelquefois parce que je ne suivais pas et quelquefois parce que je ne concentrais pas bien.
Et alors, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire?
Quand on lit, ça donne un grand encouragement pour faire le yoga. Mais quand on essaie de visualiser l'effort qu'on doit donner, on n'a pas beaucoup confiance sur soi.
Au moment où je lis, ça va. Et puis après, ça s'éteint. Alors, il faut que je vous lise sur ce sujet-là très souvent pour animer l'étincelle. Bon, la prochaine fois, nous prendrons aperçu et pensée. Il paraît que vous n'avez pas le livre. Il y en a qui l'ont, non?
Moi, j'ai...
Toi, tu l'as. Lui, il l'a. Il l'a dit. Il y en a d'autres qui l'ont. C'est tout. vous. Eh bien, la prochaine fois, c'est le 28.
Non.
Ah.
C'est...
21. Alors, la prochaine fois, il faut que je vous donne des livres. Je ne sais pas. Un gros travail. Non, j'ai le livre. Et je ne sais pas s'il en est beaucoup.
Il n'y a pas longtemps qu'on a fait une impression.
Oui, mais combien? Quel... Ah, oui. Tu sais? Hein?
Il faut un peu 500.
Hein?
Nous avons un peu 500.
Seulement 500?
Et nous avons gardé la chose.
Gardez quoi? Oh, ce n'est pas des faits. Bon, alors je vais voir combien j'en ai, combien je peux vous en distribuer. Ça sera pour la prochaine fois, le 21. Bien. Et est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le sujet?
Comment conquérir le désir de se présenter bien aux yeux des autres?
Comment conquérir le désir de se présenter bien aux yeux des autres?
Se présenter bien aux yeux des autres, avoir l'approbation du public. C'est ça? D'abord, la meilleure façon, c'est de se demander pourquoi on y tient. À l'approbation des autres. Pour quelle raison? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Si vous avez une carrière et que votre carrière dépend de la bonne opinion que l'on a de vous, alors ça a une raison d'utilité. Si on a un peu de, ou beaucoup, de vanité et qu'on aime à être complimenté, c'est une autre raison. Si on donne un grand prix à l'opinion que les autres ont de vous parce qu'on les considère comme plus sages ou plus éclairés ou plus pleins de connaissances, c'est encore une autre raison. Il y en a d'autres encore, mais ça, ce sont les trois raisons principales. Raison d'utilité, raison de vanité, généralement c'est la plus forte, et raison de progrès. Naturellement, dans la raison de progrès, l'attitude n'est pas tout à fait la même parce que au lieu de chercher à faire bonne impression, on doit essayer de savoir d'abord quelle est l'impression que l'on fait, en toute humilité, pour se servir de la leçon que ça vous donne. ça c'est assez rare. Et en fait, si l'on n'est pas très simpliste, généralement, on attache d'importance à l'opinion que de ceux qui ont plus d'expérience, plus de connaissances et plus de sagesse que soi-même. Et alors ça nous mène tout droit vers un des meilleurs moyens de guérison. C'est justement d'arriver à comprendre que l'opinion de ceux qui sont aussi ignorants et aussi aveugles que nous-mêmes ne peut pas avoir une très grande valeur pour nous au point de vue de la réalité profonde et de la volonté de progrès. Et par conséquent, on cesse d'y attacher beaucoup d'efforts. Finalement, si l'on est sincère, on ne désire plus qu'avoir l'approbation ou de son professeur ou de son gourou ou du divin lui-même. Et c'est le premier pas vers une guérison totale de cette petite faiblesse qui consiste à vouloir faire bon effet auprès des gens. Maintenant, si le mouvement provient d'une utilité, celui dont j'ai parlé en premier, la question ne se pose pas ici, puisque il se trouve que l'on ne dépend pas de l'opinion que les autres ont de soi-même, ni pour vivre, ni pour se développer. Reste donc le cas le plus fréquent et le plus difficile à guérir, c'est cette espèce de petite vanité très sotte qui fait qu'on aime à être complimenté et qu'on n'aime pas les critiques. Alors, la meilleure façon, c'est de se regarder, de voir à quel point on est ridicule, petit, mesquin, sot, et le reste, de rire un peu de soi et de prendre la résolution de se passer du compliment des autres. Voilà tout ce que j'ai à offrir. Que si les questions de yoga, de discipline yogique, ça c'est une condition préliminaire indispensable de se libérer de cette petite sottise qui consiste à vouloir être apprécié par les autres. Ça, ce n'est pas le premier pas sur le chemin, c'est un des premiers pas de préparation pour pouvoir entrer sur le chemin. Parce que tant qu'on a besoin d'être apprécié et complimenté, on est un être esclave et d'une faiblesse lamentable. Au fond, il est préférable de ne pas se soucier du tout de ce que les gens pensent de vous, ni bon ni mauvais. Mais en tout cas, avant d'en être arrivé là, il serait moins ridicule de chercher à savoir l'effet que l'on fait aux autres simplement en les considérant comme un miroir dans lequel on se réfléchit plus exactement que dans sa propre conscience, qui est toujours d'une indulgence excessive pour toutes les faiblesses, tous les aveuglements, toutes les passions, toutes les ignorances. Il y a toujours une explication mentale tout à fait charmante et agréable pour se donner une bonne impression à soi-même. Mais, pour conclure, quand on a la chance de pouvoir avoir un renseignement un peu plus digne de foi, et digne de confiance sur la condition dans laquelle on se trouve, il vaut mieux ne pas demander l'opinion des autres, mais seulement s'en référer à la vision du gourou à son sujet. Si l'on veut vraiment progresser, c'est le chemin le plus sûr. Voilà. C'est tout.
J'avais une question. La maîtrise de ses propres mouvements et la maîtrise de la vaste vie autour d'elle, est-ce que c'est interdépendant ou indépendant?
Le vent aggrave la situation, il emporte vos paroles à l'autre bout du terrain et je n'entends rien.
La maîtrise de ses propres mouvements.
Oui.
Et la maîtrise de la vaste vie autour d'elle.
C'est la maîtrise de?
De la vaste vie autour d'elle.
La vaste vie autour d'elle.
Autour d'elle,
autour
quoi,
de soi,
elle?
Autour de soi.
La vaste vie autour de soi.
Oh.
Et ces deux maîtrises sont interdépendantes.
Hein?
Est-ce que ces deux sont interdépendants?
Maîtrise de soi et maîtrise de ce qui vous entoure. Oui. Ça dépend à quel point de vue vous vous placez. Le commissaire de police, par exemple, il a une certaine maîtrise sur les circonstances qui lui entourent et il n'a généralement pas beaucoup de maîtrise de soi. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
C'est exactement le sens de la maîtrise sur la vaste vie autour de soi.
Oh, la phrase est là. Ça, il est de toute évidence qu'il faut d'abord commencer par se maîtriser soi-même. Autrement, on n'a aucune action sur ce qui vous entoure, excepté celle d'augmenter la confusion.
Nous avons un exemple du Vivekananda qui n'arrive pas à la maîtrise de ses collègues, mais il a une grande maîtrise sur la vie autour de lui.
C'est la première fois que j'entends ça. Qui n'avait pas de maîtrise sur sa colère? Qui a raconté cette histoire?
La biographie.
C'est lui-même qui l'a dit? C'est authentique, cette histoire?
Oui, quelquefois il s'emportait.
Hein?
Quelquefois il s'emportait, c'est pour quelqu'un.
Mais il le savait lui-même. Il n'avait pas une maîtrise de ce qui l'entourait. Il avait une grande influence, ce qui est une chose tout à fait différente. On ne peut pas maîtriser la matière extérieur si on ne maîtrise pas la matière intérieure. Parce que c'est la même chose. Mais il avait une influence, ce qui est tout à fait différent. C'est pas une maîtrise. C'est une influence. C'est-à-dire qu'il pouvait éveiller certains mouvements chez les autres. Mais ils ne pouvaient pas les contrôler. C'était eux-mêmes qui devaient se contrôler avec l'éveil. Mais c'est pas lui. C'est impossible. Si c'est... Je dis lui, n'importe qui, n'est-ce pas? C'est une règle d'ordre général. C'est d'ailleurs d'une simplicité enfantine parce que la maîtrise, c'est la connaissance du maniement de certaines vibrations. Si vous avez la connaissance du maniement de ces vibrations, vous l'avez. Le meilleur champ d'expérience, c'est vous-même. Vous l'avez d'abord en vous-même, et l'ayant en vous-même, vous pouvez l'appliquer aux autres. Dans la mesure où vous êtes capable de vous identifier à eux et par conséquent de créer cette vibration en eux. Mais si vous ne l'avez pas en vous-même, vous ne connaissez même pas le procédé. Vous ne savez même pas comment le faire. Comment pouvez-vous le faire chez les autres? Vous pouvez, par la parole, par une influence sur eux, vous pouvez les encourager à faire le nécessaire pour apprendre à se maîtriser, mais vous ne pouvez pas les maîtriser directement. Maîtriser quelque chose, un mouvement, c'est simplement par sa présence, en opposant la vraie vibration à la vibration mauvaise. C'est ça qui constitue le pouvoir de maîtrise. Ce n'est pas en parlant, en expliquant, avec la parole et l'explication, et même une certaine émanation de force, vous avez une influence sur quelqu'un. Mais vous ne maîtrisez pas le mouvement. La maîtrise du mouvement, c'est la capacité d'opposer à la vibration de ce mouvement, la vibration qui est plus forte, plus vraie, et qui peut arrêter l'autre vibration. Par exemple, Je peux vous donner un exemple, n'est-ce pas, très, très facile. Deux gens se disputent en face de vous. Non seulement ils se disputent, mais ils vont en venir au coup, n'est-ce pas? Alors, vous leur expliquez que ce n'est pas une chose à faire. Vous leur donnez de bonnes raisons pour qu'ils s'arrêtent. Ils pourront s'arrêter. Vous aurez eu une influence sur eux. Mais si simplement vous vous tenez en face d'eux, et puis que vous les regardez, et puis que vous présentez cette vibration, sans dire un mot, sans aucune explication, l'autre vibration ne pourra plus exister, elle tombera d'elle-même. Ça, c'est la maîtrise. C'est la même chose au point de vue de l'ignorance. S'il vous faut des mots pour expliquer quelque chose, ce n'est pas la vraie connaissance. S'il faut que je prononce tout ce que je prononce pour que vous me compreniez, ce n'est pas une maîtrise. C'est simplement, je peux exercer une influence sur votre intelligence et vous aider à comprendre, éveiller en vous le désir de savoir et de vous discipliner, etc. Mais si je ne suis pas capable, en vous regardant, sans rien dire, de faire entrer en vous la lumière qui vous fera comprendre, je n'aurai pas maîtrisé le mouvement. Vous comprenez ça? Alors, je peux vous dire d'une façon certaine que, au moins sur ce point-là, s'il est historiquement exact que Vivekananda avait des mouvements de colère qu'il ne pouvait pas maîtriser, c'est-à-dire qu'il s'emportait en parole ou en action. Et bien sûr, ce point-là, il était incapable de maîtrise sur son entourage. Il ne pouvait que susciter en eux des vibrations semblables. Et alors, probablement légitimer chez eux leur faiblesse à cet égard. Il pouvait leur dire en parole, surtout ne vous emportez pas, mais ça ne sert à rien du tout. C'est l'éternel fait, n'est-ce pas, l'éternelle parole de « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais », mais ça n'a aucun effet. Oh, oh. Vous vous mettez en colère avec vos élèves?
Pour maîtriser ou discipliner, et comment faire lorsqu'on n'a pas de maîtrise sur soi?
Alors on ne peut pas.
Mais des façons de vous vivre la maîtrise, ça prendra toute la vie.
Oh, c'est dommage. Mais comment voulez-vous espérer? N'est-ce pas? Vous avez un élève indiscipliné, désobéissant, insolent. Eh bien, ça représente dans l'atmosphère une certaine vibration qui d'ailleurs malheureusement est très contagieuse. Mais si vous n'avez pas vous, en vous, la vibration contraire, la vibration de la discipline, de l'ordre, de l'humilité, d'une tranquillité et d'une paix que rien ne peut déranger. Comment voulez-vous avoir une influence? Vous allez lui dire, ça ne se fait pas. Ou ça sera pire. Ou il se moquera de vous. Et si par hasard, vous-même, vous n'avez pas de contrôle et que vous mettez en colère, alors c'est fini. Vous perdez pour la vie toute possibilité de contrôler vos élèves. Les professeurs qui ne sont pas d'un calme parfait, d'une endurance à toute épreuve et d'une tranquillité que rien ne peut déranger, qui n'ont pas d'amour propre, qui, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas comme ça, eh bien, ils n'y arriveront pas. Il faut être un saint et un héros pour être un bon professeur. Il faut être un grand yogi pour être un bon professeur. Il faut être dans l'attitude parfaite pour pouvoir exiger que les élèves soient dans une attitude parfaite. Vous ne pouvez demander à personne ce que vous ne faites pas vous-même. C'est une règle. Alors regardez la différence entre ce qui est et ce qui devrait être, et puis vous mesurerez la différence de votre insuccès dans la classe. C'est tout ce que je peux vous offrir. Et j'ajoute, puisque j'en ai l'occasion, nous demandons ici à beaucoup d'élèves, quand ils deviennent grands et qu'ils savent quelque chose, d'enseigner aux autres. Il y en a, je pense, qui comprennent pourquoi. Mais il y en a aussi qui pensent que c'est parce que c'est bon de servir d'une façon quelconque et qu'au fond, on a besoin de professeurs et qu'on est content d'en avoir. Mais moi, je vous dis, parce que c'est un fait, que je n'ai jamais demandé à aucun de ceux qui ont été éduqués ici de donner des leçons sans voir que ce sera pour lui la meilleure façon de se discipliner lui-même, d'apprendre mieux ce qu'il doit enseigner, et d'arriver à une perfection intérieure qu'il n'aurait jamais s'il n'était pas un professeur et qu'il n'ait pas cette occasion de se discipliner qui est exceptionnellement sévère. Ceux qui réussissent comme professeurs ici, je ne veux pas dire d'une réussite extérieure, artificielle, superficielle, mais qui deviennent vraiment des bons professeurs, ça veut dire qu'ils sont capables de faire un progrès intérieur, d'impersonnalisation, de suppression de l'égoïsme, de maîtrise de ces mouvements et d'une clairvoyance, d'une compréhension des autres et d'une patience à tout être. si vous passez par cette discipline-là et que vous réussissez, eh bien, vous n'aurez pas perdu votre temps ici. Et je demande à tous ceux qui acceptent de donner des leçons d'accepter dans cet esprit-là. C'est très bien d'être gentil et de rendre service et d'être utile. C'est bon, naturellement, c'est une très bonne chose. Mais c'est seulement un côté et peut-être le moindre côté de la question. Le plus grand côté, c'est que c'est une grâce qui vous est donnée de pouvoir arriver à une maîtrise de soi, une compréhension du sujet et des autres que vous n'auriez jamais sans cette occasion. Et si vous n'en avez pas profité pendant toutes les années que vous avez enseigné aux autres, ça veut dire que vous avez tout au moins à moitié perdu votre temps. C'est tout. Convaincu. Vous allez vous mettre au travail.
Alors, à propos de l'organisation de l'école, comment veux-tu que ça doit se faire? L'organisation externe de l'école. Comment veux-tu? Ce que tu as dit, c'est à propos de chaque professeur, n'est-ce pas?
Oui.
En attitude intérieure.
Oui.
Mais à propos de l'organisation de l'école extérieure.
Oui.
Comment veux-tu que ça soit fait? Parce qu'à présent, il y a beaucoup de disputes entre les professeurs.
Disputes, j'espère pas trop. Discussion. Moi, je veux. Je peux vous dire d'une façon générale, n'est-ce pas? Mais. Les détails de l'organisation. Quel est ton problème, toi?
Jusqu'à présent, ce que tu as dit à propos de l'université, n'est-ce pas, ce sont des idées générales, mais
oui.
Les détails,
oui.
Il y a beaucoup de différences dans les opinions. Alors, quel est le vrai chemin que tu veux que nous prenions?
Pardon, il faudrait d'abord que vous me disiez à quel point de vue. Organisation, c'est très vague, n'est-ce pas? Si c'est les programmes d'études et tout ça, c'est un sujet assez formidable qui ne peut pas se régler comme ça. Si c'est la façon d'enseigner, ça, c'est une chose tout à fait personnelle dans les deux cas. Le plan général est facile, c'est-à-dire qu'on l'a donné d'une façon assez claire, mais à moins que tu me dises, par exemple, que tu me donnes un cas où il y a, mettons, discussion et opinions diverses.
Maintenant, enfin, mais tu as dit que l'élève, on doit donner toute liberté à l'élève, n'est-ce pas? Alors, pour interpréter cette chose, on vient à la conclusion qu'on ne doit pas avoir de classe libre, parce qu'on doit laisser l'élève comme il veut, s'il veut venir à la classe ou s'il ne veut pas venir à la classe, etc. Alors dans ce cas, on ne doit pas avoir des heures fixes pour chaque classe. Et dans ce cas-là, l'organisation devient très compliquée. Comment arranger alors les places?
Tout à fait, alors possible. Mais quand est-ce que j'ai dit qu'il fallait laisser libre, le père libre de venir ou de ne pas venir? Pardon. Il ne faut pas confondre. J'ai dit, et je le répète, que si un élève se sent tout à fait étranger à un sujet, par exemple, si un élève qui se sent des capacités de littérature et de poésie un dégoût, ou en tout cas un éloignement pour les mathématiques, s'il me dit je préfère ne pas suivre le cours de mathématiques, je ne peux pas lui dire non, non, il faut absolument le faire. Mais si un élève a décidé de suivre une classe, c'est une discipline absolument élémentaire qu'il la suive, qu'il y aille régulièrement et qu'il s'y conduise convenablement. Autrement, il est tout à fait indigne d'aller à l'école. Je n'ai jamais encouragé personne à vadrouiller aux heures de classe et à venir un jour et de s'abstenir un autre. Jamais. Parce que, pour commencer, s'il ne peut pas se soumettre à cette discipline tout à fait élémentaire, il n'arrivera jamais au moindre contrôle sur lui-même. Il sera toujours l'esclave de toutes ses impulsions et de toutes ses fantaisies. Et si vous ne voulez pas étudier une certaine ligne de connaissances, c'est très bien, on ne peut pas vous obliger à le faire. Mais si vous décidez de faire une chose, quoi que ce soit dans la vie, si vous décidez de le faire une chose, il faut le faire honnêtement, avec discipline, régularité et méthode, et sans fantaisie. Je n'ai jamais approuvé personne qui soit le jouet de ses impulsions et de ses fantaisies. Jamais. Et vous ne pourrez jamais obtenir ça de moi, parce que, alors on n'est plus un être humain, on est un animal. Par conséquent, voilà une des questions qui est tout à fait réglée. Sans discussion. Maintenant, un autre problème. Bien. Alors, mettons que ce soit pour une autre fois. Nous arrêtons.